Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Vous viendrez au secours des gens humbles, Seigneur, et vous abaisserez le regard hautain des orgueilleux, car qui est Dieu en dehors de vous, Seigneur ? Mes très chers frères, c'est aujourd'hui le 8e dimanche après la Pentecôte, et si vous pensez que jusqu'ici l'Église nous a enseigné une doctrine bien sévère et très dure, en faisant de la charité une obligation absolue dont dépend notre salut, eh bien sachez qu'aujourd'hui elle nous donne une clé qui nous ouvre infailliblement la porte du ciel. Une clé très facile, une clé qui est universelle, une sorte de passe-partout spirituel qui fait que si nous l'utilisons, nous pouvons nous sortir de toutes les situations les plus invraisemblables possibles, de toutes les passes les plus difficiles et les plus dangereuses possibles, et le ciel ne pourra pas nous résister puisque nous en aurons la clé. Alors, je vous propose de bien écouter, mes très chers frères, car l'Église sait doser les encouragements, les paroles roboratives, les exhortations, etc. Nous allons voir plusieurs choses. Premièrement, nous allons avoir à examiner l'oraison, de telle sorte que nous voyons ce que nous devons demander à Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire le vouloir et le faire. Ensuite, nous verrons une grande vérité qui est assez méconnue, c'est que nous sommes les débiteurs de Dieu, et par nature et par grâce. Et enfin, nous verrons, avec l'aide de Dieu, comment nous devons travailler sagement à la grande affaire de notre salut. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Voici l'oraison que nous avons fait monter à Dieu il y a un instant. Largire nobis, donnez-nous, Seigneur, de penser et d'agir toujours en toute droiture, en sorte que, n'existant que par vous, nous puissions aussi ne vivre que selon vous, par Jésus-Christ, etc. C'est lui, c'est Dieu, dit saint Paul, qui donne le vouloir et le faire. Nous ne pouvons pas faire si nous ne voulons pas. Et nous ne pouvons pas vouloir si Dieu ne nous donne pas de vouloir. Parce que, dans le paradis terrestre, nous voulions tout droitement, puisque nous étions dans l'état d'innocence. Mais depuis la chute, nous voulons d'une façon systématiquement déviée. L'homme naturel veut des choses qui sont contraires à sa nature, qui sont contraires à sa fin surnaturelle unique, et il veut des choses qui sont, s'il les obtenait réellement, et bien souvent malheureusement il les obtient, sont au détriment et de son bonheur spirituel et même de son bonheur temporel jusqu'à un certain point. C'est donc Dieu qui nous donne le vouloir et le faire, et c'est pour ça que nous devons lui en faire la prière en tant que chrétien. Tout d'abord, nous disons au Seigneur « Largire nobis, quae sumus ». Largire nobis, c'est-à-dire « donnez-nous, mais donnez-nous avec largesse ». Vous voyez, « largire », ça a donné « largesse » en français. « Accordez-nous avec largesse ». C'est une nécessité divine qui veut que c'est la bonté divine qui veut que tous les hommes soient sauvés. Nous savons qu'il y a dans cette volonté une nécessité, puisque Dieu peut tout ce qu'il veut. Maintenant, lorsque nous disons « largire nobis », nous ne faisons pas que demander. Nous demandons, selon les paroles de notre Seigneur, c'est-à-dire nous demandons afin de recevoir avec une grande abondance. Demandez et on vous donnera une mesure bien tassée qui déborde, dit notre Seigneur. Dieu ne veut pas simplement nous donner chichement. Il nous demande de ne pas donner chichement quand nous faisons l'aumône. Il dit que celui qui donne généreusement recevra généreusement. Et donc, s'il nous dit cela, c'est que lui-même nous donne avec grande largesse. D'où la prière, largire nobis. Donnez-nous avec largesse, accordez-nous avec largesse, Seigneur. Nous prenons Dieu au mot, lui qui veut que nous soyons sauvés, et nous lui disons, Seigneur, donnez-nous votre salut qui consiste en ces choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Nous demandons à Dieu qu'il nous accorde avec générosité, mais c'est comme étant privilégié. Tout le monde ne peut pas demander à Dieu d'accorder avec largesse. Vous voyez, de toute façon, ce n'est pas la première chose qu'on demande à Dieu. On demande déjà d'abord à Dieu qu'il nous pardonne. nos péchés quand on se convertit, et ensuite qu'il nous donne avec largesse. Vous voyez ? Donc, il les dit « largirez nobis ». Alors, vous allez dire, évidemment, c'est nous qui parlons. Oui, mais nobis, c'est pas n'importe qui, si j'ose dire. N'y voyez pas de la fierté chrétienne mal placée. Nobis, c'est pas accordé à l'humanité, accordé à tous les hommes, accordé à tous les hommes qui sont tellement gentils et que vous devez bien aimer s'ils ne vous aiment pas. Nobis, largirez nobis. N'oubliez pas que la prière, l'oraison des messes, est une oraison que l'Église a composée, de par l'inspiration du Saint-Esprit, pour nous, ses enfants. Elle ne va pas faire des petits papiers avec les oraisons comme ça, et puis elle ne va pas les larguer en avion sur des populations païennes ou sur des populations mécréantes. On ne peut dire les oraisons de l'Église que dans la mesure où on assiste à la messe, ou du moins où on s'y associe de tout son cœur, et qu'on les dit en tant que chrétien. Si nous n'étions pas baptisés et que nous disions « largirez nobis, que sumus domine, semper, etc. », d'une certaine manière, Dieu qui veut peut-être nous sauver, nous dirait, s'il devait y avoir ce dialogue par impossible, il nous dirait, il faut d'abord me demander autre chose, avant. Il faut me demander ma miséricorde, il faut me demander le sang de mon fils, il faut me demander le baptême pour que vous puissiez rentrer parmi ceux qui peuvent être sauvés. Vous voyez, sans le baptême, on ne peut pas être sauvé. Du moment où on est baptisé, le nobis, c'est bien nous. Nous, les enfants de Dieu. Largirez nobis. Et d'ailleurs, la suite de l'oraison nous fait comprendre que ça ne peut être qu'à nobis, si j'ose dire, ça ne peut être qu'à nous que Dieu accorde cela. Il ne peut pas donner l'esprit de méditer toujours ce qui est droit et de le faire à n'importe qui, aux gens qui ne l'aiment pas, aux gens qui ne sont pas ses enfants, aux gens qui ne sont pas baptisés, aux païens, aux mécréants. Donc, nobis, c'est bien les baptisés, c'est bien nous, ceux qui ont fait alliance avec Dieu par le baptême, ceux qui ont vu par la grâce de Dieu, la grâce du baptême, leur liberté être restaurée. Désormais, ils peuvent faire sans entrave ce que Dieu attend de nous. Nous pouvons faire sans entrave ce que Dieu attend de nous. C'est pour cela que nous disons « Quae sumus », nous vous en supplions, s'il vous plaît, nous en prions, nous vous prions de nous exaucer, nous, que vous avez déjà élevé à la dignité d'enfant de Dieu, capable de demander des choses précises à leur Père Céleste. À qui nous adressons-nous? Vous savez, nous l'avons déjà dit ces années précédentes, il est très important de voir à qui l'Église nous fait nous adresser. Bien sûr, c'est toujours le même Dieu, mais il est appelé de divers noms, de divers attributs. Ici, c'est dominé, mais la phrase est ainsi faite que c'est dominé propitius en réalité. Largire nobis quae sumus domine, semper spiritum cogitandi correcta sunt, propitius et agendi. C'est un latin qui est très beau. Dominé, propitius. Nous nous adressons au Seigneur, dominus, dominé, vocatif, propitius, c'est-à-dire au Seigneur qui nous est propice. C'est-à-dire que nous nous approchons conformément aux paroles de saint Paul dans les Hébreux, avec confiance, avec assurance au trône de la grâce, pour être exaucé au temps convenable. Nous ne disons pas en passant, si vous y pensez, donnez-le-moi. Nous ne disons pas, comme les païens, faites pleuvoir sur mon champ parce que j'ai besoin de pluie, Dieu, qui que vous soyez, peut-être le Dieu de la pluie, etc. Nous disons, en tant qu'enfants de Dieu, donnez-nous, nous vous en prions, Seigneur, notre Maître, propitius, qui nous a été propitiable par le sang du Christ versé pour nous. Voyez, il faut être très précis quand nous prions. Il faut, ou quand nous essayons de comprendre les oraisons que l'Église nous fait faire. Sinon, finalement, nous ne prions jamais que comme des païens. C'est-à-dire très mal. Domine propitius. Il est le bon Dieu. On dit le bon Dieu, le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu qui est source de toute bonté. Il nous est propice car notre Seigneur Jésus-Christ nous a réconciliés avec lui par la croix, par son sang. Donnez-nous largement, Seigneur, qui nous êtes propice. Donnez-nous, quoi donc? Avant tout, Semper. Donnez-nous toujours. Voyez, faisons très attention de ne pas prier comme des pélagiens. Donnez-nous, Seigneur, la quantité de grâce suffisante qui est nécessaire pour que je fasse des œuvres qui vous plaisent. Vous me donnez votre grâce et puis vous me laissez faire. Ça, ce n'est pas une prière catholique. C'est une prière charnelle. Donnez-nous toujours. Donnez-nous toujours. Qu'est-ce que c'est? Vous allez dire, c'est la prière du catholique orthodoxe. Oui, c'est la prière du sarment. Donnez-moi, ô divin cep, toujours la sève, à chaque instant. Si le cep envoie de la sève par intermittence dans le sarment, on ne va pas voir des raisins en pointillés, si vous me permettez l'expression, on va voir un sarment malade et des grappes qui vont se détériorer, si jamais elles commencent à exister, même à être formées. Donnez-nous, Saint-Père, donnez-nous largement, Dieu Seigneur, qui nous êtes propices dans le Christ Jésus, donnez-nous toujours. C'est une assistance constante de la grâce en tout moment. C'est donc la sève dans les branches. Sans moi, dit le Christ, vous ne pouvez rien faire. Donnez-nous constamment. Donnez-nous de la constance dans notre volonté. Nous ne disons pas, Seigneur, donnez-nous des coups de fouet, donnez-nous, un peu comme on dit, on prend une liqueur pour prendre un coup de fouet, donnez-nous non pas des sortes de doses de drogue pour avoir des hallucinations et puis après retomber, donnez-nous une constance dans la volonté. Vous voyez, largirez, c'est pour ça que nous disons largirez. Donnez-nous avec largesse cette sève divine qui coule en nous constamment, de telle sorte que nous puissions avoir le temps de porter du fruit. Si la sève passe dans le sarment, et puis qu'elle n'y passe plus, et puis qu'elle y repasse, et puis qu'elle arrête d'y passer, ce sarment est réputé mort. Le jardinier va venir, il va dire, je vais le couper, parce qu'il est malade. De toute évidence, il y a un blocage dans les veines du sarment. Ce que nous demandons, nous qui sommes des bloqueurs professionnels, si j'ose dire, nous qui massacrons la grâce chaque fois qu'elle nous est donnée, nous demandons que nous recevions avec largesse toujours, toujours, Semper, toujours. Prions bien les mots qui nous sont donnés par l'Église, à moins de penser que l'Église nous une sorte de débauche de mots qui ne servent à rien. Alors, donnez-nous toujours largement, Seigneur, notre Maître propice, quoi donc ? Spiritum cogitandi correcta sunt. L'esprit de cogitandi, de réfléchir ou de méditer, correcta sunt, les choses qui sont droites. Évidemment, la traduction littérale en français est un peu raide. Mais c'est pourtant cela qui nous est imposé par l'Église aujourd'hui à demander. Donnez-nous ce spiritum, c'est l'esprit nouveau, cet esprit nouveau dont parle David dans le psaume 50, cet esprit renouvelé en moi un esprit magnanime. Vous voyez, renouvelé en moi un esprit bien disposé. Ce spiritum, c'est un esprit nouveau qui vient de la contrition et du désir et de la pratique de la pénitence. Si je pêche et que je suis contrit, et puis que je me confesse, et puis après que je recommence, ou que j'oublie ce que j'ai, je n'aurai pas cet esprit nouveau que je demande avec surabondance à Dieu, et qui n'est autre que la grâce. Vous voyez, c'est un esprit nouveau. C'est un esprit une disposition d'esprit, donc, qui est de réfléchir aux choses qui sont droites. C'est faire de la loi de Dieu ses délices, comme dit le psalmiste. C'est veiller aux occasions de la pratiquer. Celui qui cogite sans cesse les choses qui sont droites est constamment en train de se dire « il faut que je sois charitable, il faut que je sois patient, il faut que j'ai tous les caractères de la charité, il faut que j'aime Dieu par-dessus toute chose, il faut que j'aime mon prochain comme moi-même. » Vous voyez, il ne faut pas que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Ce sont les 10 commandements et tout le reste. Donnez-nous avec largesse, constamment, cet esprit, de telle sorte que notre volonté soit stabilisée dans les choses qui sont droites. Pourquoi les choses qui sont droites ? Parce que justement, Saint Jean-Baptiste nous dit « redressez les voies qui sont tortueuses ». Ce cœur tortueux, les pensées le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, le Seigneur connaît ses voies. Vous voyez, dit l'Écriture, nous sommes tortueux, nous demandons d'être généreusement rectifiés. Voilà ce que l'Église nous fait demander aujourd'hui. Semper spiritum cogitandi qui recta sunt. Les choses qui sont droites, faites, Seigneur, que, avec abondance et d'une façon perpétuelle et permanente, nous y pensions sans cesse, afin que nous les connaissions, et c'est l'enseignement que l'Église nous délivre, ce sont les bons livres que nous pouvons lire pour édifier notre foi, et puis, c'est aussi le fait d'être à l'affût de la pratique. Vous voyez, quand on apprend dans un livre l'art du pêcheur, de pêcher, la pêche à la mouche, on achète son petit matériel dans la boutique, et on va, et on est à l'affût, on aimerait trouver des brochets, des carpes, des truites, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a hâte de mettre en pratique ce qu'on a fait, vous voyez ? On apprend quelque part à l'école, je ne sais pas moi, à l'école professionnelle, on apprend à sculpter le bois, à tailler, à couper, etc. On a hâte de faire des meubles, Eh bien, le chrétien qui apprend la loi de Dieu à l'Église, au cours des sermons, des instructions, etc., a hâte de la mettre en pratique. Vous allez dire, c'est moins évident. C'est moins évident, pourquoi? Parce que notre cœur est tortueux, parce que nous sommes mauvais. Mais cela doit être notre cas. Vous voyez, nous ne devons pas être ingrats. Nous apprenons la loi de la vérité, la loi parfaite, et nous devons la mettre en pratique. Nous devons être à l'affût constamment des occasions de la mettre en pratique. Sinon, nous sommes des paresseux. C'est pour ça qu'il est dit « cogitandi et agendi ». Cogiter, réfléchir, si j'ose dire, les choses qui sont droites, et les mêmes choses qui sont droites, agendi, les faire. Donnez-nous, avec largesse, Seigneur, d'une façon constante qui stabilise notre volonté, de réfléchir tout le temps aux choses qui sont droites, et de les faire. De les mettre en pratique, de ne manquer aucune occasion. User droitement de sa liberté. Voilà ce que nous demandons de Dieu. Il nous a rendus libres. Désormais, nous pouvons faire sans entrave ce que nous sommes supposés faire, c'est-à-dire aimer Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. Voilà ce que nous demandons à Dieu dans cet esprit nouveau, cet esprit renouvelé que nous lui demandons aujourd'hui de nous accorder d'une façon constante et généreuse. Mais alors, vous allez dire, il y a encore une suite. Évidemment, ce que nous avons demandé jusqu'à présent, c'est le moyen d'obtenir la fin de l'oraison. Ut, afin que, c'est le but recherché. Chaque fois que vous voyez ut dans une oraison, vous savez qu'on va mentionner le but recherché dans l'oraison. Mais avant de mentionner le but, l'oraison nous fait énoncer une vérité. Ut, virgule, qui sine te esse non possumus, afin que nous qui, sans vous, ne pouvons pas être. C'est la condition naturelle de l'homme, et a fortiori, la condition du baptisé. Le baptisé pourrait-il être baptisé sans Dieu? Évidemment, non. Mais l'homme charnel, l'homme naturel, pourrait-il exister sans Dieu? Tout autant, non. Donc, vous voyez, l'homme charnel, l'homme mondain, l'homme non baptisé, l'homme mécréant, ne peut pas exister un seul instant sans Dieu, sans que Dieu veuille qu'il existe. C'est le Dieu créateur qui soutient sa création. Eh bien, si c'est vrai pour l'homme charnel, c'est doublement vrai pour l'homme chrétien. Pourquoi? Parce que l'homme chrétien, c'est aussi un homme naturel sous un certain rapport. Vous voyez, nous sommes en état de voie, nous sommes des créatures. Donc, sans lui, sans Dieu, nous ne pouvons pas exister, mais nous ne pouvons même pas, non plus exister naturellement, mais nous ne pouvons pas non plus exister surnaturellement. Ce qui est vrai une fois pour le païen est vrai deux fois pour le chrétien. C'est normal, nous sommes enfants de Dieu. Ut, afin que nous qui ne pouvons pas être sans vous, secundum te vivere valeamus, nous puissions vivre selon vous, conformément à votre volonté en réalité. Vivere, qu'est-ce que c'est? Vivre, c'est vivre de la vie de la grâce, évidemment. Ce n'est pas vivre de la vie de charnel que l'on a quand on vient au monde et quand on est un enfant du diable. C'est la vie de la grâce qui nous fait porter du fruit en abondance. Justement, ce fruit que nous portons en abondance, parce que nous recevons, après l'avoir demandé, une abondance de grâce qui vient irriguer notre volonté qui a été stabilisée. Vous voyez, quand la sève passe bien dans le rameau, bien à la fin de l'été, nous avons de grosses grappes. C'est mathématique, en quelque sorte. C'est nécessaire, si Dieu veut. Donc, voyez, vivere, afin que nous qui ne pouvons pas vivre sans vous, nous ne pouvons pas être sans vous, nous puissions vivre conformément à votre volonté. Mais il y a ici quelque chose... évidemment, on pourrait faire une exégèse très approfondie de ces oraisons qui sont absolument magnifiques et infailliblement exaucées par Dieu. Mais je vous ferai juste remarquer quelque chose. En fait, dans la traduction en français, c'est une bonne traduction, mais enfin, c'est une traduction un petit peu comme ci, comme ça. « Ut qui sine te esse non possumus, afin que nous, qui ne pouvons pas être sans vous, secundum te vivere valeamus, nous ayons la force de vivre conformément à vous. » Valeamus, évidemment, ça veut dire... pouvoir. Mais il y a possumus et valeamus. Si l'Église utilise deux mots, deux verbes dans l'oraison, c'est bien qu'elle veut dire deux choses différentes. Nous, de fait, selon la nature, nous ne pouvons pas être sans Dieu. nous, c'est une impossibilité à notre nature d'exister indépendamment de Dieu. Mais vous voyez, vivre selon Dieu, c'est quelque chose qui doit venir, si l'on peut dire, du plus profond de notre nature, parce que c'est une vie surnaturelle. Nous ne pouvons rien faire pour exister, parce que nous existons ou n'existons pas. Celui qui n'existe pas, les gens qui ne sont pas encore nés ne sont pas là pour le dire. Bon, c'est une évidence, c'est un truisme. Maintenant, il se trouve que nous sommes nés de nouveau par le baptême. Donc, il ne s'agit pas de dire « Ah, ben, je ne peux pas ne pas exister en tant que baptisé, comme je ne peux pas ne pas exister en tant que créature humaine sans Dieu. » C'est trop peu dire. Il faut, je peux vivre selon Dieu parce que j'en ai la force. Et c'est pour cela qu'il est dit dans cet évangile que nous lisons à la fin de toutes les messes, à ceux qui l'ont reçu, il a donné la puissance de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas une puissance comme ça, si vous voulez, vous en faites ce que vous voulez. Il a donné la puissance de devenir enfant de Dieu. Ils sont des créatures de Dieu, comme n'importe qui, comme les païens, comme les moustiques, comme les tiques, etc. Bon, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire que par la nouvelle naissance du baptême, désormais, il se trouve que nous avons la santé pour être enfant de Dieu. Parce que dans Valéamus, il y a l'idée aussi d'être en santé. Vous voyez ? Il y a l'idée d'être fort, de pouvoir. Avec Dieu, avec la force d'être pour lui, nous pouvons vivre secundum te, selon lui. C'est la conformité à la volonté de Dieu. Alors, allons un petit peu plus loin et développons cette demande cogitandi correcta sunt et agendi. Réfléchir ou méditer ce qui doit aux choses droites et les faire. Saint Paul dans l'Épître nous dit ceci. Mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Appliquez notre esprit aux vérités de la loi de Dieu, c'est une chose excellente. Mais si j'ose dire, légèrement en amont, un cran en amont, nous devons appliquer notre esprit aux choses qui sont droitement dites de nous-mêmes. Il ne s'agit pas simplement d'être comme ça, de facto humain, de facto chrétien, et de dire, bon, ben maintenant il faut que je sois vertueux, il faut que... Oui, mais qui doit être vertueux ? Celui qui n'est pas redevable à la chair pour vivre selon la chair. Alors vous allez dire, c'est très beau, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Et justement, l'Église est là pour nous enseigner et nous expliciter ce que dit saint Paul. Mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Debitores sumus non carni. C'est plus clair en latin. Vous voyez, debitores non sumus. Nous ne sommes pas débiteurs de la chair. Alors vous allez dire, pourquoi est-ce qu'il parle de dette ? Parce qu'il y a quelque chose de très important. Saint Paul parle ici, évoque ici la question de la redevabilité. La naissance naturelle, et certains penseurs l'ont bien souligné, la naissance naturelle, indépendamment de toute considération théologique, nous révèle débiteurs de nos parents, sans eux nous ne serions pas là, débiteurs de nos parents parce que non seulement ils nous ont formés, mais en plus ils vont nous éduquer, nous sommes débiteurs d'avance en quelque sorte, vis-à-vis de l'éducation de nos parents, et d'une façon générale, nous sommes débiteurs de la société. Nous ne sommes pas des êtres qui arrivons comme ça, spontanément, dans le monde, et qui essayent de se trouver une place dans le monde. Lorsque lorsqu'un enfant naît, il rentre dans un contexte où on lui fait une place. Alors évidemment, malheureusement, il y a des fois des enfants auxquels on ne fait pas de place. C'est bien malheureux, et ça c'est une autre question. C'est autre chose. Mais normalement, lorsque dans une famille, il y a un papa, une maman, et mettons deux enfants, et qu'il y a un troisième enfant qui vient, eh bien, d'une certaine manière, tout le monde s'écarte pour faire une petite place au nouveau venu. Le nouveau venu ne va pas commencer à rouler des mécaniques en disant « Bon, ben alors, qu'est-ce qu'on mange ? Quel est le repas ? » etc. D'une certaine manière, bon, évidemment, c'est un bébé, il ne se rend pas compte, mais il est débiteur. On lui a fait une place par amour. Il est débiteur de l'amour de ses parents, de ses frères, de ses sœurs. L'homme est un débiteur pour l'existence. La chute, maintenant, nous a asservis à la chair comme à un maître. Et pour diverses raisons qui seraient peut-être trop longues d'expliquer aujourd'hui, mais nous sommes devenus débiteurs de la chair dans le sens où, d'une certaine manière, nous sommes asservis à ce maître qui nous tyrannise et dont nous sommes les débiteurs à défaut d'être les débiteurs de Dieu. tous ceux qui vivent selon la chair, qui ne sont pas baptisés ou qui étant baptisés vivent comme des mécréants, sont débiteurs de la chair dans le sens où ils sont sous l'obédience d'un maître auquel ils doivent tout. Alors vous allez dire, mais comment est-ce que c'est possible? Mais la chair, à la chair, nous lui devons, bon évidemment, bien des misères, mais enfin aussi bien des plaisirs. Tous les péchés que l'on fait et qui vont dans le sens de notre sensualité, toutes ces choses-là, nous sommes débiteurs de la chair. C'est elle. C'est elle qui en est l'origine, c'est elle qui les a rendus possibles. Si nous péchons, nous ne sommes pas débiteurs de Dieu. Nous sommes plutôt débiteurs du diable, ou disons de la chair. Voyez ? Or, le baptême a fait de nous les débiteurs de Dieu parce qu'il nous a translatés, comme dit saint Paul, du royaume des ténèbres à l'admirable lumière du Fils de Dieu. Dieu nous a adoptés pour ses enfants. Et excusez-moi, mais quand on est adopté par Dieu, et que le prix de notre adoption, c'est quand même le sang du Fils éternel de Dieu, vrai Dieu, on est quand même un peu débiteur. Et si j'ose dire, les malheureux qui sont débiteurs de la chair le sont beaucoup moins que nous le sommes de Dieu. Parce qu'après tout, ils sont débiteurs, malgré eux, la chair est quelque chose de dépravé, quelque chose de, d'une certaine manière, s'il n'y avait pas eu la chute, il n'y aurait pas eu la chair non plus. Dieu, qu'il y ait eu la chute ou qu'il n'y ait pas eu la chute, Dieu demeure Dieu et nous sommes toujours débiteurs. Et a fortiori, après la chute, lorsque Dieu nous rachète, Dieu nous a adoptés pour ses enfants, mais nous dit un auteur, quelle étrange fidélité nous, les enfants de Dieu, nous manifestons au vieil homme. Nous suivons ses désirs, nous avons eu des désirs qui vont vers le bien, et néanmoins nous faisons le mal, comme si nous nous sentions obligés envers ce vieil homme. Alors dit comme ça, ça paraît absurde, même si de fait tout le monde acquiesce. Dit comme ça, ça paraît absurde. Mais quand on sait que le vieil homme, en fait, c'est ce moi que j'aime en moi-même et de moi-même, alors d'une certaine manière, on s'aperçoit que quand on suit sa propre tendance, quand on suit ses propres désirs, quand on poursuit sa propre sensualité, on est débiteur du vieil homme parce qu'on est esclave de soi-même, parce qu'on s'aime soi-même. C'est la concupiscence, l'amour de soi, qui fait que nous sommes, en fait, débiteurs de la chair. Or, saint Paul nous dit, à nous les chrétiens, nous, nobis, à nous, hein, les chrétiens, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Le petit enfant qui vient de naître dans une famille dont le père lui a donné son nom est redevable à son père et à sa mère de vivre conformément aux mœurs de cette famille. Je nais dans une famille catholique, je suis redevable de l'éducation catholique que j'ai reçue. Vous voyez ? Alors quand on est dans une autre religion, c'est différent parce que là, évidemment, on était servi au diable. C'est autre chose. Je parle des chrétiens, nobis, nous les chrétiens, nous les familiers de Dieu. Quelle étrange fidélité au vieil homme. Nous, les héritiers de Dieu, nous sommes les intendants de ses grâces qui nous accordent selon notre état, et il nous semble que nous avons une dette envers le vieil homme et que nous devons quand même continuer à l'écouter et à lui donner quelque chose. Évidemment, saint Paul parlant de la dette, alors nous sommes obligés d'aller un peu rapidement malheureusement, mais saint Paul parlant de la dette, notre Seigneur parle aussi des histoires de dette. Dans cette étrange parabole, qui est la parabole peut-être la plus étrange, mais en réalité la plus, si l'on peut dire, la plus lumineuse de notre Seigneur, enfin, je dis ça, mais vous savez que toutes sont belles, sont magnifiques, c'est cette parabole étrange qui choque le bon chrétien, qui n'y pense pas. Comment notre Seigneur nous montre un économe infidèle qui ajoute une infidélité à l'infidélité et qui est loué par... Alors c'est le monde à l'envers, etc. Attention, mon bon bourgeois, il faut se calmer. Notre Seigneur nous enseigne paradoxalement, il faut écouter un peu notre Père Saint-Augustin pour avoir la leçon, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas ici de marcher sur la tête de façon économique. Que dit notre Seigneur? La morale de l'histoire, vous l'avez entendu, nous n'allons pas relire, la morale de l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est, et le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme d'esprit, car, dit notre Seigneur, les enfants de ce siècle sont plus habiles dans la conduite de leurs affaires que les enfants de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous sommes des débiles par rapport aux mondains? Bien sûr que non, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que les mondains sont focalisés sur l'idée de ménager leurs intérêts. Le type, si vous me permettez l'expression, c'est une crapule qui n'arrête pas de dépouiller son maître, son maître va le renvoyer, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a jamais travaillé de sa vie, c'est un administrateur. Donc il n'est pas assez fort pour travailler la terre, et puis comme il a vécu dans une certaine abondance, oui, un petit peu, si l'on peut dire, il rougit de mendier, parce que tout le monde va dire, ah ben, c'est lui qui vivait comme un roi dans le dos de son maître, et puis maintenant il tend la main. Que faire? Que faire? Alors il trouve une solution. La solution, c'est de faire une fraude, et à celui qui doit 80 mesures d'huile, il n'en marque que 50. À celui qui doit 100 mesures d'huile, il en marque 50, que 50. D'autres 100 mesures de froment, il en marque 50. Pourquoi? Parce que ces gens-là, vous remarquez, ce sont des acheteurs en gros. Donc ce sont aussi, il y a le maître de maison, l'homme riche, et puis après il y a des hommes moyennement riches. Donc ces hommes moyennement riches viennent chez l'homme riche acheter du blé et de l'huile, mais c'est sans doute des marchands, etc. Donc si il les favorise en faisant une fraude, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il sera mis à la porte, eh bien, il va pouvoir aller frapper à la porte de ces gens en disant « Vous n'auriez pas besoin d'un administrateur, vous vous souvenez, renvoyez-moi l'ascenseur. » C'est comme ça que ça marche dans le monde. Pour les chrétiens, notre Seigneur nous dit seulement ceci. Regardez, les hommes sont prêts à être d'une extraordinaire inventivité, les hommes mondains, sont prêts à être d'une extraordinaire inventivité et ingéniosité quand il s'agit de poursuivre leurs intérêts propres. Et vous, votre grand intérêt qui est votre salut, vous ne vous en préoccupez pas comme un mondain se préoccupe de son intérêt propre. Votre désir du ciel est moins grand que la concupiscence du mondain pour lui-même. Voilà ce que dit notre Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est saint Augustin, c'est évident, tout le monde l'a dit depuis 2000 ans. Les enfants de ce siècle doivent nous faire honte parce qu'ils sont tellement entichés d'eux-mêmes qu'ils sont capables de faire des prouesses de malice et d'habileté pour arriver à se sortir d'affaires. Et nous, nous nous aimons tellement peu nous-mêmes dans ce que nous sommes par le baptême, que nous sommes extrêmement négligents par rapport à la seule chose qui est vraiment, qui constitue notre intérêt propre, qui est le salut. Cette parabole paradoxale nous montre donc, mes très chers frères, un homme habile à toujours préserver et conserver ses propres intérêts. Menacé de la ruine, il se prépare un bon accueil chez les autres. Le moyen, c'est de leur alléger la dette. Or, voici ce que nous dit un auteur. Nous sommes, avant de faire une citation assez longue, je vais vous résumer. En réalité, il dit ceci. Nous avons une dette envers Dieu qui est une dette incommensurable. Nous devons la payer, mais d'une façon différente de la façon dont nous payons nos dettes à la chair. Nous étions débiteurs de la chair et nous faisions les œuvres de la chair. Mais saint Paul nous dit que si vous vivez sans la chair, vous mourrez. Et si par l'esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Donc, ne pas être débiteur de la chair, c'est non pas simplement ne plus pécher, mais c'est faire mourir les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair, c'est les œuvres de la tendance propre, de l'amour propre, de la concupiscence, du moi. Voici ce que nous dit cet auteur. Dieu nous a remis nos dettes quand nous étions dans l'impuissance de les payer. Nous sommes dorénavant redevables à Dieu. Comment Dieu va-t-il nous demander de le payer, lui rendre la dette que nous lui devons? Il ne nous demande pas d'autre reconnaissance, sinon que de suivre l'exemple qu'il nous a donné. Quel est cet exemple? Si vous suivez bien, mes très chers frères, si vous ne dormez pas, qu'est-ce que c'est cet exemple? C'est de pardonner quant à quelqu'un qui n'est pas capable rendre notre dette. Dimitte nobis debita nostra, sicut et nos, dimittimus debitoribus nostri. Remettez-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons les dettes à ceux qui nous doivent de l'argent ou nous doivent moralement des choses. Voici ce que nous dit l'auteur encore. L'Évangile nous commande de nous haïr, de nous mépriser, c'est-à-dire de nous traiter nous-mêmes avec toute la rigueur que nous peuvent inspirer la haine et le mépris. Nous n'avons point de plus dangereux ennemi que nous-mêmes. Il n'y a point de corruption que nous devions tant craindre que celle de notre cœur. Il n'y a rien de si opposé à la loi de l'esprit que celle des sens. Nous voulons faire le bien et nous ne faisons pas le bien que nous faisons et nous faisons le mal que nous ne voulons pas. Faisons-nous donc, dit-il, une guerre continuelle. Humilions et brisons notre cœur. Mortifions-nous. Alors bon, jusque-là, Tout le monde est d'accord, ça ne mange pas de pain, je verrai ça à l'occasion. Mais il continue. Et comme... Donc c'est ça la manière, écoutez bien mes très chers frères, c'est ça la façon que nous avons de payer notre dette envers Dieu. Payer, remettre les dettes de notre prochain. Nous verrons ça évidemment dans quelques dimanches, puisque ça sera la parabole du serviteur impitoyable. Mais vous voyez, dès maintenant, c'est toujours le même. C'est un enseignement qui revient souvent. Notre Seigneur dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Si vous traitez les autres avec rigueur, vous serez traité avec rigueur. On utilisera pour vous la mesure que vous aurez utilisée pour mesurer les autres. Maintenant, cet auteur nous dit, et comme nous avons trop peu de courage et de force pour faire autant qu'il serait nécessaire, écoutez bien, nous devons être bien aises que tout le monde supplée à notre faiblesse, qu'on nous haïsse, qu'on nous méprise, qu'on nous punisse de nos péchés et que l'on nous détruise par tous les moyens, qu'on détruise par tous les moyens ce qui est encore opposé à Dieu en nous. Et c'est là la seule chose que les hommes nous doivent et que nous devons attendre d'eux. Ils ont des dettes. On m'a fait du tort, on m'a fait du mal, on m'a spolié, calomnié, volé, etc. Ouh, j'ai envie de me venger. Voilà, je vais pardonner. C'est très bien. Mais, d'une certaine manière, qui me dit que je pardonne vraiment pour l'amour de Dieu? Peut-être que je pardonne parce que je ne peux pas me venger. Peut-être parce que si je me vengeais, ça ferait tellement de grabuches que je n'ai pas envie d'aller en prison. Bref. Donc, qui peut avoir le cœur assez pur pour savoir comment... Il faut demander de l'aide pour pouvoir être aidé à payer les dettes que nous avons envers Dieu. Donc, d'une part, nous-mêmes, l'effort que nous devons faire, c'est un grand effort, nous devons remettre toutes les dettes que les hommes nous doivent, moralement. Et d'autre part, nous devons nous laisser aider par notre prochain, qui supplée à notre faiblesse. Et la seule chose que nous devons estimer que notre prochain nous doit, c'est cette aide. Vous voyez, des fois on dit, ah ben, le prochain pourrait me donner un coup de main, le prochain pourrait faire une bonne tête quand je fais des efforts, on fait la tronche. Le prochain pourrait m'aider, le prochain pourrait être plus agréable, pourrait être plus édifiant, pourrait être plus encourageant, pourrait être un meilleur modèle pour moi, etc. Certes, laissez le prochain face à ses obligations, face à Dieu. Qu'est-ce que cet auteur nous dit? Il nous dit, la seule chose que nous devons estimer que notre prochain nous doit, c'est de nous aider à nous mortifier nous-mêmes. Donc, nous devons être reconnaissants lorsque nos prochains nous haïssent, qu'ils nous méprisent, qu'ils nous punissent de nos péchés, qu'ils nous détruisent, qu'ils détruisent par tous les moyens tout ce qui est opposé à Dieu en nous. Vous allez dire, mais ça ne les regarde pas. Si, si, d'une certaine manière, ne vous inquiétez pas, ils savent très bien ce qu'ils font sans le savoir. Je suis colérique, mon prochain m'irrite. Mon prochain m'aide à combattre la colère. Je suis paresseux, mon prochain... Mon supérieur, mon mari, que sais-je, me dit, allez, il faut se bouger. Il m'aide à combattre la paresse. Vous voyez? Je suis orgueilleux, mon prochain fait une blague sur moi, me rabaisse dans la boue. Il m'aide à combattre l'orgueil. C'est tout ce que je lui demande. Ah oui, mais le prochain, on lui demande qu'il m'honore, etc. Par un certain côté, oui, mais ça, d'une certaine manière, c'est le devoir du prochain vis-à-vis de vous. C'est le devoir que le prochain vous doit par rapport à Dieu. Mais on ne peut pas contrôler ce que font les autres. Tout ce que nous devons estimer que notre prochain nous doit, c'est une assistance permanente dans nos efforts pour nous mortifier. Alors évidemment, vous allez dire, ou quelqu'un dira, mes très chers frères, oui, alors ça veut dire en fait qu'il faut se laisser marcher sur la tête et tout constamment. Eh bien, je vais vous dire, mes très chers frères, si vous avez pensé à ça, vous n'êtes pas digne d'entendre la réfutation de cette illusion. Parce que ce n'est pas vrai. Il ne s'agit pas de se laisser marcher sur la tronche, comme on dit grossièrement. Ce n'est pas ça. Mais parce que vous l'avez pensé, je vous exhorte plutôt à demander pardon à Dieu de l'avoir pensé. Parce que vous pensez bien que notre Père a une certaine idée de la dignité de ses enfants. Et que le bon Dieu n'a pas engendré ses enfants au prix du sang de son Fils pour leur dire « maintenant vous faites marcher sur la tronche par tout le monde ». Voyez ? Donc, quand on s'imagine que Dieu ne sait pas ce qu'il fait et que Dieu ne connaît pas la dignité qui est la nôtre, c'est qu'on a une fausse idée de notre dignité. Nous avons une idée de la dignité d'un enfant, mais nous nous comportons comme un prince insolent qui fait la honte de son père. Comment il vient ? Il vient dans une auberge, je suis le prince, je suis le fils du roi, je suis le neveu du patriarche, etc. J'estime qu'on devrait me servir gratuitement, de toute façon, vous êtes un fermier de mon père, etc. La dignité de prince, non. La dignité que Dieu nous reconnaît, c'est la dignité de l'or. Et quand le fondeur, quand l'artisan a de l'or et qu'il sait que c'est le métal le plus précieux qui existe au monde, qu'est-ce qu'il fait? Il le fond, il le refond, il le refond, il le fait passer dans le creuset, il donne des additifs, etc., pour le purger, pour que l'or soit de plus en plus pur. Voilà la haute idée que Dieu a de nous, mes très chers frères, ses enfants. Il a une très haute idée de nous, c'est pour cela qu'il nous donne des pédagogues extrêmement, extrêmement puissants. Et les pédagogues extrêmement puissants, c'est notre prochain absolument insupportable qui nous aide à combattre les vices odieux qui sont en nous. Vous allez dire, peut-être, ceci est bien dur à entendre. Mais très cher frère, on se demande alors pourquoi on est là. Si vous entendez de l'Église qu'elle vous donne des exhortations qui sont à la portée des païens et que les païens mettent en pratique sans même aimer Dieu ou sans même aller à l'Église, mais à quoi bon être chrétien? On est quand même chrétien pour aller au ciel. Si nous avons là une morale de païen, c'est-à-dire une morale d'honnête homme, quelconque comme ça qui n'aime pas Dieu, nous allons aller en enfer. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. La seule chose qui nous intéresse, notre intérêt, c'est d'aller au ciel. Et nous devons par tous les moyens nous aider. Le mauvais économe n'a pas hésité à frauder, embarquer des gens dans sa fraude et se dire, avec une certaine folie, d'une certaine manière, que ces gens qui auront été des fraudeurs vont, sachant qu'il est un fraudeur, l'engager comme économe quand il sera viré. Et pourtant, il essaye. Alors nous pouvons très bien engager notre prochain pénible pour nous aider à nous mortifier, à suppléer à la faiblesse et à la lâcheté qui est la nôtre. Vous voyez, il y a quelqu'un qui m'irrite constamment. Eh bien, c'est la seule chose qu'il me doit, que me doit mon prochain, il doit m'aider à combattre l'irritation et la colère dans mon cœur. C'est la seule chose, il me doit aussi du respect, c'est la seule chose qu'il me doit. C'est ainsi, mes très chers frères, que nous travaillerons sagement à notre intérêt, qui est notre intérêt suprême, qui est notre salut. C'est la clé de la vie chrétienne. Je vous promettais au début de ce sermon une clé très facile qui ouvre le ciel. Faites de votre prochain votre allié pour combattre les vices qui sont en vous. C'est la façon la plus facile. Les prochains, on en a plein les rues, on en a plein les communautés, on en a plein les familles, si j'ose dire. Nous avons des prochains, il est très rare d'avoir des prochains selon notre cœur, et souvent tant mieux. Faisons, voilà la clé, et nous terminons par ces mots, voilà la clé du ciel. Faire de son prochain celui qui nous aide à combattre nos vices, nos mauvaises tendances. C'est comme ça, mes très chers frères, que Dieu nous remettra nos dettes, que nous paierons nos dettes à Dieu, ou plutôt que Dieu nous remettra nos dettes, dans la mesure où nous aurons remis les dettes de ceux qui nous doivent des dettes. Que Dieu, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que Dieu nous assiste. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.